Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau vous informe sur Europe 1.
Et beaucoup de littérature très différente à suivre dans la deuxième heure. Offense, le dernier roman de Constance Debré chez Flammarion, et le dictionnaire amoureux du mauvais goût chez Plon, signé Nicolas Destiendorf, qui aura lieu tout à l'heure à 19h30, qui donnera lieu à un débat. Mais tout cela, c'est après le journal. Bonsoir, Elham Medjahed.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
19h sur Europe 1. Et la une de votre journal, d'abord l'hommage de toute une ville à Lucas dans les Vosges.
Plus de 500 personnes ont marché cet après-midi à Épinal, à la mémoire de ce jeune garçon de 13 ans qui s'est suicidé début janvier. Lucas a mis fin à ses jours victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Reportage à suivre en début de ce journal. On est à la veille de l'ouverture des débats sur la réforme des retraites devant l'Assemblée nationale et la Première ministre annonce aujourd'hui que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite. À 63 ans. Interview d'Elisabeth Borne dans le JDD qui fait réagir, mais la rue reste mobilisée. Place au sport également avec les mondiaux de ski alpin qui démarrent demain à Courchevel-Méribel en Savoie. Et puis on parlera de la Ligue 1 de football, suite et fin de la 22e journée.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Beau et froid partout, sauf en Méditerranée, pluvieuse en ce début de semaine surtout. Et c'est le retour des gelées généralisées en matinée.
Météo complète en fin de journal. Et d'abord, cette marche blanche dans les Vosges, en souvenir de Lucas.
Il y a un mois, le jeune de 13 ans mettait fin à ses jours. Dans une lettre d'au revoir, Lucas exprimait sa souffrance, victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Aujourd'hui, plus de 500 personnes se sont retrouvées à Épinal pour un dernier hommage. Une date très symbolique en cette journée nationale de prévention contre le suicide. La correspondante d'Europe 1, Tatiana Gezalman, s'est rendue à cette marche.
Vêtus de pulls et de manteaux blancs, plus de 500 personnes défilent silencieusement dans les rues d'Épinal. Un bouquet de roses multicolores à la main, Patrick a fait le chemin depuis Besançon.
Je suis enseignant à la retraite, je suis homosexuel aussi, et ça m'a beaucoup touché.
Comme lui, beaucoup d'anonymes sont venus soutenir la famille et dire stop au harcèlement scolaire qui touche un enfant sur 10, à l'image d'Alicia.
Je travaille avec les enfants, donc je peux côtoyer le harcèlement qui commence très jeune. Et je pense que c'est essentiel que tout le monde se tienne la main et tout le monde essaie de lutter contre ça.
Au bout d'une demi-heure de marche, la mère de Lucas prend la parole, les larmes aux yeux.
Mon bébé, tu resteras à jamais dans mon cœur. Tu es dans mes pensées à chaque instant qui passe. Le temps s'est arrêté, mon monde s'est écroulé à la minute où j'ai su que tu étais parti. Tu seras tout jamais mon étoile, je t'aime. Et je t'aimerai jusqu'à ce que nous nous retrouvions.
Et comme dernier hommage, le club de danse dont faisait partie l'adolescent enchaîne quelques démonstrations, notamment sur la musique très symbolique d'Eddie de Préto, Kid. Épinal, Tatiana Gezalman, Europe 1.
L'actualité, c'est aussi cette semaine cruciale qui s'annonce pour la réforme des retraites avec dès demain le début des débats.
Des discussions sur ce projet devant l'Assemblée nationale. Le lendemain, place à la colère de la rue avec une nouvelle mobilisation à l'appel de nombreux syndicats. Aujourd'hui, Elisabeth Borne affirme être ouverte à certaines modifications du texte. Dans le JDD, la Première ministre annonce l'élargissement du dispositif pour les carrières longues. Une main tendue principalement aux Républicains, Louis de Raguenel.
Oui, le message de l'hôte de Matignon est clair. Elle veut tout faire pour éviter d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution en trouvant une majorité. Concrètement, avant même le début des débats, Elisabeth Borne fait une nouvelle concession aux Républicains en étendant le dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, qui pourront donc partir à 63 ans à la retraite contre 64 ans dans le texte initial. Une mesure qui coûtera entre 600 millions et 1 milliard d'euros. 30 000 personnes sont concernées. Il faut bien comprendre que c'était la condition sine qua non du parti de droite pour voter le texte. Autre assouplissement de la Première ministre, un point d'étape à mi-parcours de la réforme en 2027. La demande venait principalement du MoDem, allié d'Emmanuel Macron. Eh bien, pas d'objection particulière de la Première ministre qui explique dans le même temps que la présidentielle de 2027 et les législatives qui s'en suivront seront une forme de clause de revoyure. Pour terminer, dans cet entretien, Elisabeth Borne monte au front pour réaffirmer que cette réforme des retraites, présentée comme la mère des réformes par Emmanuel Macron, se fera coûte que coûte, sans le soutien de la rue.
Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Sachez qu'Olivier Dussopt sera l'invité de Sonia Mabrouk demain à 8h13 sur Europe 1. Des annonces en tout cas qualifiées de trompe-l'œil par certains syndicats qui ne manquent pas de réagir.
Le leader de la CFDT parle, lui, de rustine. Pour Laurent Berger, la chef du gouvernement ne répond pas à la préoccupation qui est celle de millions de travailleurs. La CFDT, qui appelle une nouvelle fois à une mobilisation massive mardi et samedi partout en France pour faire reculer l'exécutif, malgré les deux dernières manifestations. Le gouvernement semble bel et bien déterminé à aller jusqu'au bout. La réaction de Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA.
Il fait semblant d'aller au bout. C'est-à-dire qu'il essaie de dire aux Français, n'allez pas dans la rue parce que j'irai au bout. Je ne bougerai pas. Résignez-vous. Ben, les Français ne se résigneront pas. Donc de toute façon, ça laissera des traces indélébiles. Et donc, il faut que, là encore, ces traces indélébiles, vous savez, les Français, c'est éruptif. Hein. La France, on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer. 2 millions dès la première manifestation, ça ne s'est jamais vu. Et au plus le gouvernement parle, au plus les sondages montrent que cette réforme, les Français n'en veulent pas. Donc je conseille au gouvernement de continuer à parler parce que ça nous arrange beaucoup. Mais ça démontre qu'effectivement, ça n'a pas imprimé et que l'opinion n'en veut pas.
Des propos recueillis par le correspondant d'Europe 1 à Lyon, Laurent Imbert.
Voilà, les syndicats mobilisés. Donc du coup, sur le plan des transports, beaucoup de perturbations à attendre sur mardi prochain.
Oui, un vol sur 5 pourrait être annulé après-demain, donc à Orly. Le débrayage devrait aussi être bien suivi à la SNCF qui invite les voyageurs à reporter leurs déplacements. Au niveau des TER, seuls 3 trains sur 10 en moyenne devraient circuler. Les RER et les Transiliens ne sont pas épargnés non plus. Côté RATP, eh bien, on prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro, mais légèrement ralenti sur le réseau bus.
Et on suivra bien évidemment sur Europe 1 l'état du trafic pour cette journée de mobilisation.
Autre crainte dès mardi, Pierre, une pénurie à la pompe avec ces grèves reconductibles dans tout le secteur de l'énergie et sont concernées les raffineries et les dépôts de carburant.
Allez, on va faire le plein de la voiture, tant qu'il y a encore du carburant. Cela dit, ce n'est pas la peine de vous ruer hein, sur les stations-service. On l'a dit dans le journal de 19h. On vous emmène au salon Rétromobile qui vient se tenir à Paris.
C'est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés de voitures anciennes, de collection. Des visiteurs venus nombreux découvrir ou redécouvrir des morceaux d'histoire de l'automobile. Reportage dans les allées du salon, signé Aurélien Fleureau.
Le sourire aux lèvres, Dominique arpente les allées, séquence nostalgie pour lui et l'un de ses meilleurs amis.
On discute, on rigole, une ambiance, et puis le plaisir de revoir des voitures anciennes que j'ai connues quand j'étais gamin. Puis de redécouvrir et échanger, dit tiens, tu la connais celle-là? Oh, cette voiture-là, je ne m'en rappelais plus. Vous voyez, c'est ça.
Des voitures des années 30, des grands classiques comme la 2 chevaux ou la R5, sans oublier les sportives, Jean-Marc est dans son élément.
Quand on est passionné d'automobile, on assiste à des courses, donc de les revoir, là, plein de souvenirs qui remontent, le bruit, le hurlement des moteurs, la musique des moteurs. Puis les voitures françaises, celles qu'on fait la gloire de l'industrie automobile.
Rétromobile, c'est aussi le rendez-vous des voitures d'exception, avec des enchères à plusieurs millions d'euros et des opportunités plus raisonnables. Romain Grabowski, le directeur du salon.
On peut retrouver aussi, par exemple, une zone moins de 25 000 euros pour favoriser l'accès aux véhicules de collection. Et là, on a à peu près 130 véhicules qui sont disponibles à la vente durant la semaine.
Un marché en constante augmentation, plus 3% l'an dernier, avec la Peugeot 205 en vedette, voiture ancienne la plus vendue en 2022, alors qu'elle vient de fêter ses 40 ans.
Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe 1 à la 47e édition du salon Rétromobile.
19h08, on marque une pause sur Europe 1 et juste après l'affaire du ballon espion chinois qui finalement a été abattu par Washington, qui ne cesse d'attiser les tensions entre Pékin et les États-Unis, et puis les sports avec notamment les mondiaux de ski, le rugby et la Ligue 1 de football. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
La suite du journal sur Europe 1 avec Elham Medjed. On se rend maintenant en Chine où les autorités haussent le ton dans l'affaire du ballon abattu au-dessus des États-Unis.
Bien hier, l'engin qualifié d'espion par le Pentagone a été détruit par des chasseurs F-22 américains. Une action qui ne plaît pas à la Chine, qui réagit vivement aujourd'hui. Le point avec le correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Lebelzik.
Oui, après les excuses, la colère et maintenant les menaces. Pékin a publié ce matin un communiqué dans lequel les autorités chinoises expriment, je cite, leur fort mécontentement et protestent contre l'utilisation de la force par les États-Unis. Elles se disent même prêtes à répliquer, faisant craindre une escalade des tensions déjà très vives hein, entre la Chine et les États-Unis. Ce ballon qui a mis le feu aux poudres a donc été abattu au-dessus des côtes de Caroline du Sud dans l'espace aérien américain et les États-Unis espèrent récupérer des capteurs afin de déterminer si oui ou non il s'agit d'un ballon espion l'avion, ou comme le prétend toujours la Chine, d'un ballon d'études météo. Alors les États-Unis ont déjà annulé la visite prévue de leur secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui devait arriver ici à Pékin. Et la presse ce matin ici en Chine accuse les États-Unis d'avoir en fait monté cette affaire en épingle pour déstabiliser la Chine et même pour la diffamer. C'est ce que l'on dit ici, affirmant que les États-Unis ne font rien pour créer un climat favorable au dialogue entre les deux grandes puissances. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et un autre ballon de surveillance chinois a été repéré ces derniers jours au-dessus de la Colombie. L'armée de l'air précise que l'engin a quitté l'espace aérien, donc national.
Dans le reste de l'actualité internationale, Berlin dit avoir des centaines de preuves de crimes de guerre en Ukraine.
Annonce ce matin du procureur général d'Allemagne. Il demande un effort international pour traduire les responsables en justice. Et Berlin dit avoir en sa possession des éléments montrant clairement des massacres de masse commis par les forces russes à Boutcha notamment. Sur le front des combats dans l'est de l'Ukraine, des affrontements violents se déroulent en ce moment à Bakhmout, ville où Moscou et Kiev parlent de lourdes pertes dans leurs rangs militaires depuis plusieurs mois. En parallèle, l'Ukraine doit faire face à un autre défi, la lutte contre la corruption. En bref, la disparition de l'ex-président du Pakistan à l'âge de 79 ans à Dubaï. Pervez Musharraf est décédé des suites d'une longue maladie selon l'armée. Arrivé au pouvoir à la faveur du coup d'État, il avait tenté d'imposer des valeurs plus libérales au Pakistan.
19h12, les sports. Et on va commencer par les mondiaux de ski alpin dans les Trois-Vallées, Courchevel-Méribel.
C'est la cinquième fois que la France accueille ces championnats. 150 000 spectateurs sont attendus pendant 10 jours, pas moins de 600 skieurs venus du quatre coins de la planète. Les mondiaux débutent demain en Savoie avec, dès ce soir, la cérémonie d'ouverture. Cyril de la Morinerie, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Alors vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Courchevel. Alors comment, quelle est l'ambiance en ce moment sur place?
Ambiance glaciale. Il faut bonnet gants pour résister à ce froid, mais c'est, je vous le disais, à 18 ans, une très bonne nouvelle parce qu'on va avoir des mondiaux formidables. On nous annonce du beau temps. Là, il neige actuellement des petits flocons et nous sommes en plein cérémonie d'ouverture avec Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui est en train de s'exprimer. On a eu la cérémonie des drapeaux. On a vu les 70 nations défiler avec notamment le Cap-Vert, le Chili, la République Dominicaine, l'Estonie, la Géorgie, le Ghana, Hong Kong, l'Ukraine également, ça c'est un symbole fort avec des skieurs ukrainiens qui seront là. Et puis bien sûr la Marseillaise qui a retenti parce que l'équipe de France, elle va tenter de remporter des médailles, même si elle n'est pas très en forme. Cet hiver ça a été un petit peu K1 avec une seule victoire, mais ils comptent les Français sur Alexis Pinturo qui connaît parfaitement le domaine puisqu'il est né juste en dessous de la vallée. Il a vécu ici. Et puis Tessa Worley bien sûr qui disputera ses derniers mondiaux, donc une très très belle ambiance ce soir pour ces mondiaux de ski alpin. C'est vraiment une très belle récompense pour tout le ski français. On rappelle qu'on a des domaines extraordinaires dans les Alpes. Et ici, le domaine des Trois-Vallées, Pierre Domino, que vous connaissez parfaitement, 600 km de piste. Bah écoutez, en tout cas, on va essayer de chausser les skis parce que c'est quand même exceptionnel, ce domaine.
On va le dire à Jean-François Pérez, il va être content.
Cyril de la Morinerie, donc envoyé spécial d'Europe 1 pour ces championnats du monde de ski alpin. Coup d'envoi demain donc et jusqu'au 19 février à Courchevel-Méribel. Agenda chargé ce dimanche aussi avec le tournoi Destination de rugby. Le 15 de France s'est imposé dans la douleur cet après-midi en Italie. Score final 29-24 pour les Bleus.
Ouais, avec un prochain match contre l'Irlande. Et l'Irlande, c'est autre chose. Le football à présent, suite et fin de la 22e journée de Ligue 1.
Monaco s'est imposé 2-0 face à Clermont cet après-midi. Même score pour Nantes face à Ajaccio. Match nul 0 partout entre Auxerre et Reims, puis entre Lorient et Angers. Enfin, Strasbourg remporte son match face à Montpellier. Et l'affiche ce soir, c'est Marseille-Nice à 20h45. À vivre, bien sûr, en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Le derby de la Méditerranée entre deux équipes en forme, notamment l'OM, dauphin du PSG, invaincu depuis 10 matchs. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir à tous.
Alors vous êtes à Marseille pour ce match. Après le match nul de Brest face à Lens en fin d'après-midi, eh bien Marseille a l'occasion de réaliser la bonne opération de ce week-end en cas de victoire, Jean-François.
C'est clair, si jamais l'OM gagne ce soir dans une ambiance qui est déjà chaude, hein, vous attendez les spectateurs qui arrivent ici au stade Vélodrome, il fait frais, mais c'est une grande soirée de foot qui s'annonce. En effet, le match nul de Lens qui n'arrive plus à gagner. Et du coup, si l'OM bat Nice ce soir, eh bien l'OM comptera 3 points d'avance Lens à la deuxième place de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain. Mais attention, ce n'est pas fait parce que si l'OM est en forme et reste sur cette série de 10 matchs sans défaite, l'OGC Nice va beaucoup mieux depuis que Lucien Favre, son entraîneur suisse, a été remplacé par Didier Digard, qui était l'entraîneur de la réserve niçoise, ancien joueur du club, très aimé de tout l'effectif, qui possède la fibre niçoise. Et depuis, bien, Nice ne perd plus et c'est une équipe niçoise qui a gagné à Lens d'ailleurs, il y a quelques jours, qui se présente ce soir sur la pelouse du stade Vélodrome. Plus de 65 000 spectateurs. On va peut-être battre un record d'affluence. Et les nouvelles recrues qui seront sur le terrain après le mercato d'hiver. Mofi, qui a failli venir à l'OM, le Nigérian de Lorient, qui va jouer pour Nice son premier match. Vitinha, le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Plus de 30 millions d'euros, le Portugais, qui arrive de Braga. Et également Unai, Hassine Unai, le milieu de terrain marocain, qui avait fait fort avec sa sélection marocaine en Coupe du Monde, demi-finaliste, et qui va lui aussi découvrir le stade Vélodrome ce soir, le coup d'envoi à 20h45.
Merci Jean-François Pérez en direct de Marseille, envoyé spécial d'Europe 1 OM Nice, match à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Rousseau. Pierre de Villeneuve. En effet, nous suivons ce match, le coup d'envoi à 20h45. Jean-François l'a dit, les thématiques juste avant pour préparer cette rencontre. Dimitri Payet sera titulaire, ça a été annoncé par Igor Tudor, l'entraîneur, il y a 3 jours. C'est très rare, il est de moins en moins titulaire. C'est un joueur qui a du caractère, du tempérament et qui a un sacré CV. Mais l'entraîneur a décidé de le faire jouer pour le récompenser parce qu'il s'entraîne bien et qu'il a le niveau. Donc c'est intéressant, on vérifiera s'il tient promesse. Et puis focus ce soir sur un autre très grand match. C'est en Italie que ça se passe, entre les deux Milan, entre l'Inter Milan et le Milan AC. On fera l'historique de ces grands matchs, même si aujourd'hui ce ne sont plus les places fortes du football européen. Elles jouent les places européennes néanmoins dans leur championnat en Serie A, dans le même stade, San Siro ou Giuseppe Meazza. Qu'on soit du Milan ou qu'on soit de l'Inter, en fonction des deux clubs, soit on joue à San Siro, soit on joue à Giuseppe Meazza. Ce soir, ce sera Giuseppe Meazza, puisque c'est l'Inter qui reçoit l'AC Milan. On fera tout l'historique.
Et on se déteste entre les deux clubs ?
On se déteste, mais de père en fils.
Ah oui.
Et de mère en fille.
C'est
une horreur. C'est une horreur.
Merci Lionel Rousseau, merci Elham Medjahed pour le journal de 19h. La météo, Valérie Darmon. Comment se présente notre ciel de la semaine prochaine ?
Alors côté ciel demain, plutôt mieux, mais côté température, glacé. Après la dissipation des nuages bas, le vent de nord-est se lève et chasse donc les nuages, mais fait chuter notre mercure. Il pleut uniquement sur les bords de la Méditerranée et il neige des 600 mètres sur les Pyrénées-Orientales, les Vosges, le Jura et les Alpes. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est simple. Le froid soleil d'hiver s'impose sur les trois quarts du pays. Du bassin aquitain au sud de Rhône-Alpes, les nuages sont un petit peu plus nombreux, avec des pluies marquées toujours en Roussillon et de la neige des 600 mètres d'altitude. Les gelées sont donc généralisées. Météo France attend moins 5 à 0 degrés du nord au sud le matin, 2 à 9 de l'Alsace au Pays Basque, jusqu'à 11 en bord de Méditerranée. On va donc se situer 2 à 4 degrés sous les normales de saison, aussi du côté des maximales.
Merci Valérie Darmon, 19h18. De la littérature à présent jusqu'à 20h, avec d'abord une forme d'interrogation sur le bien et le mal. Vous allez voir, ce roman est extrêmement profond, il m'a beaucoup plu. Et puis le mauvais goût mis à nu par l'ami Nicolas Destiendorf, c'est tout à l'heure dans Panorama à 19h30. À tout de suite.